Voilà l'enregistrement de la prédication du 29 octobre, qui n'avait pas marché. Donc, je la refais à partir de mes notes personnelles. Ce ne sera pas exactement ce que j'ai prêché, mais l'idée restera la même. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 12. On va lire les versets 13 à 21. Luc 12, versets 13 à 21. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou partager vos biens? Puis il dit à tous: Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. Il leur raconte alors une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait, se demandait: Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toute ma récolte. Puis il ajouta: Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même: Mon cher, tu as de biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi de la vie. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même tu devras rendre ta vie, et alors pour qui sera tout ce que tu as accumulé? Jésus ajouta: Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors que doit faire un riche de son argent? Qu'est-ce qu'un riche d'ailleurs? À partir de quand suis-je riche? Voilà bien des questions que l'on peut se poser lorsqu'on est chrétien. L'argent est quelque chose qui tient une place fondamentale dans nos vies. Et je crois être dans le vrai en disant que c'est malheureux qu'il en soit ainsi. Le passage de l'évangile que nous avons lu ce matin concerne l'argent précisément. Un homme depuis la foule qui entoure Jésus interpelle le maître. Il lui réclame justice. Maître dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. On peut s'imaginer que cet homme a un frère qui s'est approprié tout l'héritage et qu'il espère que Jésus parlera en sa faveur pour établir une justice. Jésus choisit de ne pas s'en mêler. D'ailleurs, il ne s'embarrasse un peu jamais avec l'argent. On peut l'observer dans tout son ministère. Je crois que Jésus veut montrer que l'argent est secondaire, qu'il est un moyen et non un but. Aussi, même si je ne connais pas précisément la raison pour laquelle Jésus refuse de s'impliquer dans cette affaire de justice, je ne suis pas étonné qu'il n'interrompe pas son ministère pour la résoudre. Au lieu de cela, il saisit l'occasion d'une leçon. Il raconte l'histoire d'un riche. Un riche déjà riche, qui devient encore plus riche parce que la récolte est bonne. Est-ce à cause de lui que la récolte de ses terres est si bonne que cela? La réponse est non. Peut-il accumuler toute sa récolte dans les greniers qu'il a? La réponse est non. A-t-il besoin de toute cette nourriture pour pourvoir à ses besoins? La réponse est encore non. Donc ce riche est riche grâce à Dieu, et voilà qu'il se trouve dans une situation où il reçoit trop. Que faire? Remplir ses greniers à bloc et distribuer le reste à sa famille ou à des personnes qui ont faim? Non. Il veut détruire les vieux greniers pour en faire de plus grands et devenir plus riche. Ensuite, ne plus rien faire, boire, manger, se réjouir sans plus travailler. Hélas pour lui, Dieu lui redemande son âme le soir même, sa vie s'arrête et son projet paraît creux, complètement inutile, voire un petit peu stupide. Et c'est bien l'intention de Jésus. Cet homme vivait comme si tout lui appartenait. Il pense posséder des terres, mais la terre est à Dieu. Il pense posséder son âme, mais c'est Dieu qui la lui réclame au final. Il ne s'interroge pas sur l'origine de sa fortune, il ne médite pas sur cette bénédiction qui lui arrive grâce à cette bonne récolte. Il croit son avenir sûr parce qu'il possède de grands biens, et le voilà, six pieds sous terre, avant d'en avoir savouré les prémices. S'il avait ouvert les yeux à temps, les yeux du cœur. Alors je veux demander maintenant de faire un exercice difficile, c'est de prendre le temps du recul spirituel en vous posant une question. Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire. La question, combien d'argent doit-on recevoir lorsqu'on travaille une journée? La réponse est difficile, selon comment on considère les choses. Mais je crois que Dieu a une réponse à cette question et je veux vous la soumettre. La réponse est que l'ouvrier doit gagner assez d'argent pour ne manquer de rien. Assez d'argent. Vous allez me dire, cela ne nous dit pas combien. Et vous avez raison, cela ne nous dit pas combien. Mais laissez-moi vous montrer pourquoi je propose cette réponse et vous appeler à la méditer ensemble. Une première lecture pour nous éclairer nous emmène dans l'Exode, au chapitre 16, juste les versets 9-18. Nous sommes dans le désert et la communauté d'Israël râle parce que ils ont faim et qu'ils sont partis depuis la mer des Rouges. Et... Bref, ça se passe mal. Je lis. Puis Moïse ordonna à Aaron, dit à toute la communauté d'Israël de venir se présenter devant Dieu, car il les a entendus protester contre lui. Pendant qu'Aaron parlait à la communauté, ils se tournèrent du côté du désert et soudain la gloire du Seigneur se manifesta dans la nuée. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les protestations des Israélites. Dis-leur ceci de ma part. Ce soir, vous mangerez de la viande et demain matin, vous aurez du pain en suffisance. Ainsi, vous saurez que moi, je suis le Seigneur votre Dieu. » En effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp, et le matin, tout autour du camp, il y avait une couche de rosée. Lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était, et ils se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est ?» Moïse leur répondit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Et voici que le Seigneur a ordonné que chacun en ramasse la ration qui lui est nécessaire. Vous en ramasserez environ 4 litres par personne, d'après le nombre de personnes vivant sous le même tente. Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns beaucoup, les autres peu. Mais lorsqu'ils en mesurèrent la quantité, ceux qui en avaient beaucoup n'en avaient pas trop, et ceux qui en avaient peu n'en manquaient pas. Chacun en avait la ration nécessaire. Voilà un exemple premier, donc j'ai fini la lecture du texte là, de Dieu qui choisit de donner assez à tous. Et déjà, on observe que ce assez ne signifie pas une part égale pour chaque tente. Assez, c'est une quantité suffisante pour que chaque foyer ne manque de rien. La manne tombe sur tout le peuple. Mais il appartient au peuple de jouer le jeu en ne prenant pas plus que nécessaire, sans quoi certains manqueraient de nourriture. L'apôtre Paul citera ce passage des Écritures pour appeler l'église de Corinthe à participer à une collecte de dons qui devait venir en aide à la communauté de Jérusalem. Il a dit ceci en 2 Corinthiens 8, 13, 15. « En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. » Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Ainsi, l'apôtre Paul appelle les chrétiens de Corinthe à considérer qu'ils ont assez pour donner l'abondance à ceux qui sont dans le manque. Le fait qu'il cite l'Exode montre qu'il réfléchit les choses comme si la manne continuait de pleuvoir sur le peuple de Dieu et qu'il fallait veiller à la répartir équitablement. Pour cela, il est inévitable de chercher à discerner ce « assez » pour ne pas nous exposer à la détresse tout en mesurant la part que nous pouvons céder. La deuxième lecture que je veux faire concerne la parabole connue des ouvriers de la dernière heure. Nous n'en lirons qu'un extrait. Pour résumer, un maître possédant une vigne appelle des ouvriers tôt le matin à y travailler en leur promettant une pièce d'argent comme salaire en fin de journée. Il retourne à différentes heures de la journée sur la place du village pour voir si d'autres ouvriers cherchent du travail. Et chaque fois, il les embauche pour une pièce d'argent à la fin de la journée. Nous lisons le dénouement de l'histoire. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers jusqu'au premier. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Le maître répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient, va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux, de mes biens, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Ici encore, nous sommes confrontés à un maître qui donne à ses ouvriers non pas un salaire proportionné à des heures de travail, mais un salaire qui suffit pour vivre dignement. Chacun retourne avec assez. Un denier, une pièce d'argent, étant, d'après ma Bible d'archéologie, un salaire normal pour une journée de travail. Le maître n'est pas dans une logique d'optimiser son rendement. Il ne cherche pas à ce que sa vendange lui rapporte le plus d'argent possible, mais qu'en même temps de s'enrichir, il donne à ses employés la possibilité de vivre dignement. Un dernier exemple que je tire de la citation « L'ouvrier mérite son salaire ». Jésus envoie ses disciples annoncer l'évangile et les encourage à recevoir l'hospitalité comme un salaire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, on lit les versets 3 à 7. « Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. » Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Les disciples n'habitent nulle part, ils ne cultivent rien, ils n'ont donc qu'à trouver de quoi manger et un toit sous lequel se mettre pour dormir. Et Jésus, qui les appelle à vivre d'hospitalité, considère que ce qu'ils mangeront et ce qu'ils boiront ensuite constitue leur salaire mérité. Là encore, nous trouvons cette idée de suffisance. Ils ont assez pour vivre et continuer leur chemin. C'est d'ailleurs ce passage qui sera cité par l'apôtre Paul aussi pour encourager les églises à pourvoir aux besoins de leurs prédicateurs. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Alors déjà, pour réfléchir à tout ce que ces textes nous amènent à penser, il y a un sujet d'humiliation et de reconnaissance à voir ici. Si je crois les Écritures, déjà, Dieu pourvoit à son peuple. Mais Il nous incombe à nous de ne garder que ce dont nous avons besoin et de partager le reste avec le peuple. Alors, merci Seigneur d'être fidèle abondamment. Et pardon si je crois que tout est un mérite pour moi au lieu d'y voir ta providence. Excite-moi à discerner ce dont j'ai vraiment besoin et apprends-moi le partage. Notre civilisation occidentale est construite sur l'idée d'une propriété privée, sur l'espérance de construire une vie qui place à l'abri du besoin. Revenus, maison, jardin. Notre Dieu ne se réjouit pas de nous voir dans la détresse et il serait mensonger de croire que d'être dans la misère est un état spirituel supérieur à l'abondance. Ayant dit cela, Jésus nous demande d'être vigilants. Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. Dieu répand sa richesse sur le monde entier. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants aussi. Chacun sera jugé de ce qu'il aura fait de cette grâce. L'Église du Christ, dans ce monde, partage cette réalité et elle est appelée à révéler au monde la générosité de Dieu et sa fidélité dans sa providence. Comment ? En discernant, en déterminant justement, sagement, ce dont nous avons besoin et ce que nous avons en abondance. L'apôtre Paul rapporte une parole de Jésus en disant « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Nous sommes appelés à quitter notre conception de mérite, mais à considérer, dans ce que je reçois, une grâce de Dieu. Et si j'ai trop, il m'appartient devant le Seigneur de trouver celui qui n'a pas assez pour lui donner. Déjà, c'est quelque chose de terriblement difficile. Mais la suite l'est encore plus, car si je n'ai pas assez, je dois prier et demander ce qui me manque pour que cela me soit donné par le Seigneur à travers son Église. Ainsi, ceux qui ont beaucoup ne manquent de rien et ceux qui ont peu non plus. Notez ici qu'il n'est pas question de comparaison. Je ne compare pas ce que je donne à ce que d'autres donnent non plus. Pas plus que je ne compare ce que je gagne à ce que d'autres ne gagnent non plus. La notion de « assez » à Vauvert n'est certainement pas la même qu'en région parisienne. Croisez un pasteur qui vit dans le 16e arrondissement de Paris. Pour vous donner une idée, un studio à louer dans ce quartier, donc une seule pièce, coûte environ 400 euros par mois pour 10 mètres carrés. Sa notion de « assez » pour vivre dans un quartier pareil avec son épouse et ses trois enfants n'est pas la même notion du « assez » que j'ai, moi, avec mon épouse et mes trois enfants. Si je vivais dans un appartement de trois pièces faisant 50 mètres carrés à Paris, dans le 16e, tout mon salaire y passerait. C'est donc un discernement personnel, ou peut-être familial à vivre. Certainement, c'est aussi un domaine de nos vies où il m'appartient d'être sage, de vouloir travailler sur le long terme. S'il y a des changements à opérer dans nos vies, peut-être vaut mieux-il les entamer de façon progressive, comme pour changer des habitudes anciennes par des nouvelles, remplacer un goût de quelque chose par un goût d'autre chose. Ok Timothée, c'est bien beau tout cela, mais pourquoi faire? C'est une bonne question. Plusieurs réponses sont possibles, mais toutes doivent suivre Jésus, qui nous dit que le sens de la vie n'est pas l'argent. D'abord, j'aimerais exciter notre mémoire. Lorsque nous vivons chaque année le Noël du cœur, nous nous rassemblons et après avoir célébré le Noël du cœur, et l'équipe qui a organisé cette fête, après qu'elle ait eu lieu, fait un tour de table et tous et toutes rapportent la joie qu'ils ont ressentie à vivre ce moment de service et de partage. Certains ont accueilli, d'autres ont servi aux tables, d'autres ont pris soin des enfants, d'autres ont cuisiné, et tous sont remplis de joie. Une joie qui a un goût propre au royaume de Dieu. Beaucoup d'argent est donné à cette occasion, soit à la diaconie, soit parce que certains prennent en charge des frais pour eux. Aucun bénéfice pour l'Église ou pour ceux qui le vivent. Tout est pour le partage et pour bénir. Je crois que cette abondance-là, que nous vivons au Noël du cœur, est destinée à cette joie. L'abondance que chacun d'entre nous reçoit de Dieu peut être destinée à ce type de partage et donc à ce type de joie féconde qui nous habite. Alors je lance l'idée, peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle est mauvaise, peut-être que c'est juste une idée qui va mourir en terre pour en faire germer encore d'autres qui seront différentes. Bref, je me lance en vous encourageant à réfléchir ou à imaginer, à ressentir qu'est-ce que ça susciterait en vous. Imaginons qu'on se fixe un mois dans l'année, où, pardon, j'ai perdu la page, un mois dans l'année où on décide de trouver qu'est-ce qui est assez. Et alors, on n'a qu'à dire, par exemple, le mois d'avril, et tous, chacun d'entre nous, en famille, ou voilà, celui qui gère les comptes, je ne sais pas, on cherche à déterminer qu'est-ce qui est assez et qu'est-ce qui est de l'abondance. Et on décide de tout mettre, notre abondance, sur notre association diaconale. Certains pourront, d'autres ne pourront pas. Certains, ce mois-ci, auront les pneus de la voiture à changer et d'autres, voilà, pourront mettre 1000 euros de côté, je ne sais pas. Mais voyons ça, faisons l'exercice juste pour voir. Et ensuite, face à la somme qui aura été collectée, méditons, prions, discernons, supplions Dieu de nous donner un but ou investir cette somme. Et ensuite, nous chercherons à voir le fruit de cet acte en nous-mêmes. Nous chercherons à accueillir la joie promise par Jésus, parce qu'il l'a promis. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous la savourerons en rendant grâce. Mais pour cela, nous devons obéir à la parole de Dieu. Je rappelle ce que dit Paul, hein. Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres. D'accord? L'Église chrétienne est bien trop exploitée déjà par le passé, par son histoire. Depuis longtemps, Jésus pointait du doigt les pharisiens qui, dit-il, écrasaient le peuple sous des lois mortifères. Dans Luc 20 et 21, il est écrit: tandis que tout le peuple écoutait Jésus, il dit à ses disciples: méfiez-vous des spécialistes de la loi. Ils aiment se promener en longues robes, être salués sur les places publiques. Ils cherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Mais ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Alors, à votre avis, comment ces pharisiens, ces spécialistes de la loi, dépouillaient-ils les veuves? En les braquant dans des ruelles sombres? Non. La suite du texte le dit. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Et il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc. Mais elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Si l'apôtre Paul dit vrai, est-il normal que cette veuve s'expose à la détresse pour participer aux frais de l'Église? Ne serait-ce pas plutôt à ces riches qui mettent de leur surplus dans le tronc de veiller à ce que cette pauvre veuve ne manque de rien? Je crois que Jésus expose ainsi les méfaits des enseignements des pharisiens, ce mauvais levain qui écrase sous la culpabilité la misère au lieu qu'il soit secouru au sein du peuple de Dieu. Frères et sœurs, il y a un piège dans l'amour de l'argent. Il y a une sagesse à discerner la notion du « assez » dans nos vies. Il y a un courage à oser dire qu'il nous manque de quoi manger ou de quoi payer le loyer ou le chauffage. Il y a une joie immense à vivre dans le partage au sein de nos assemblées. La lumière des Écritures saintes trace un chemin devant nous. La grâce du Seigneur Jésus nous appelle à y marcher tous ensemble et en même temps chacun à notre rythme. L'apôtre Paul rappelle que le Christ s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Il s'est dépouillé de sa gloire pour la partager avec nous. Il a offert sa vie pour nous sauver. Pouvons-nous considérer ce chemin de partage auquel il nous appelle comme un signe de foi à montrer au monde? Pour soutenir son Église? Pour nous garder nous-mêmes de la cupidité? Non pas de nous exposer à la détresse encore une fois, mais de choisir de partager sa générosité comme un peuple uni plutôt que de vivre sa providence, juste moi et mon clan. Vous êtes dans la grâce, vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés de toutes vos fautes à cause de la générosité de Jésus, de son sacrifice. En retour, que nous demande-t-il? Il nous demande que sa providence et ses richesses répandues suffisamment sur son peuple soient diligemment réparties entre nous. Que nous avancions certes à tâtons en changeant de vieilles habitudes, en nous trompant peut-être, en nous querellant, hélas, en résistant parfois, mais que nous avancions vers une vie où l'argent redevient un moyen et non plus un but, car le but, c'est la vie éternelle, et nous l'avons. Elle commence maintenant. Amen.